Vous écoutez Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Nous sommes aujourd'hui en direct du Salon du livre anarchiste de Merlieu. Et Dominique, tu as le micro.
Voilà, ben merci. Alors, pour ce troisième débat, nous accueillons Frédéric, alors tu me diras si je me trompe, hein, Van Leeuwen.
Parfait.
Ah, bah, écoute, là, ça passera à mon pied déjà. Voilà. Donc, pour parler notamment de son livre qu'elle a co-écrit avec Cathy Collier. Alors, Cathy Collier, elle est psychologue, clinicienne, et toi, tu es psychiatre.
Voilà.
Voilà. Donc, le titre, Grandir avec des parents en souffrance psychique. Voilà, c'était un peu. Plutôt bien, ici, où on est à 10 km d'un hôpital psychiatrique, de faire quelque chose sur la psychiatrie, d'autant plus que, bon, aujourd'hui, la psychiatrie est en souffrance, là, pour le coup, et qu'il y a beaucoup à faire, et que, bon, si elle ne fait pas déjà l'actualité maintenant, elle le fera forcément demain, puisque la situation est catastrophique, et je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais il faudra faire quelque chose. Alors là, on va parler d'un aspect un peu particulier, c'est celui de, tu me diras si je déforme tes propos, mais c'est celui d'une prise en compte par les auteurs du discours, des témoignages des enfants qui ont des parents en souffrance psychique. Et que, bon, dans un traitement lambda psychiatrique des parents, eh ben, ces enfants-là, que deviennent-ils ? Ils sont placés, tu vois. Mais que deviennent leurs paroles alors que ce sont des protagonistes qui sont les premiers à diagnostiquer la maladie de leurs parents, comment ils la vivent, comment ils la transcrivent. Et moi, je trouve ça, c'est un livre vraiment formidable, hein, qui est accessible à tout le monde. C'est écrit, ça, bravo, hein, parce que les livres sur la psychiatrie, c'est imbuvable, hein, j'allais dire, c'est des termes. Et là, c'est vraiment abordable. Beaucoup de témoignages, c'est-à-dire que bon, on voit bien que la théorisation de ce qui est défendu comme position, c'est à partir d'un matériel qu'on nous restitue, et on pourrait faire la même analyse, mais on nous aide à suivre ce qu'il faut comprendre, tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, bravo.
Merci.
Et puis, j'aimerais bien savoir, par exemple, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de consacrer du temps, de l'énergie à cette question des enfants dont les parents sont en souffrance psychiatrique.
C'est vraiment une question qui s'est imposée à moi il y a bientôt une vingtaine d'années, qui a d'ailleurs complètement infléchi ma trajectoire de vie. Puisqu'à l'époque, j'étais pédopsychiatre et que depuis lors, je suis devenue psychiatre d'adultes pour pouvoir justement soutenir qu'à l'hôpital psychiatrique, on puisse aussi s'adresser aux enfants des patients. Et donc, qu'est-ce qui a donné cette idée ? À l'époque, je travaillais dans ce qu'en France, vous appelez ça des CMP, des CMPP, à Bruxelles. Il y avait les enfants qui venaient parce qu'ils venaient consulter un pédopsychiatre ou une psychologue dans l'équipe enfant. Mais il y avait aussi des enfants qui attendaient sagement dans la salle d'attente, ou certains moins sagement, la salle d'attente, leurs parents qui étaient en consultation. Parfois, ils faisaient leurs devoirs comme ça, ou parfois, ça leur arrivait de courir un peu dans les couloirs, d'aller frapper au bureau, et on se demandait un peu que faut-il, à quel titre s'adresser à ces enfants. Et on a commencé à vraiment vouloir s'interroger et on a créé à l'époque des groupes, un groupe d'enfants, un groupe d'ados qui avaient comme point commun d'avoir un parent qui venait consulter en psychiatrie ou qui était hospitalisé en psychiatrie. C'est toute une aventure, je pourrais peut-être en dire quelques mots, mais ça m'a en tout cas poussé à enquêter, vraiment à faire des enquêtes de terrain auprès d'enfants qui avaient ce type de vécu, et particulièrement des jeunes adultes, des tout jeunes adultes qui avaient vécu cette situation et qui en étaient à peine sortis, pour vraiment être au plus près de leur témoignage. Et une jeune fille qui s'appelle Christelle, qui avait 17 ans, c'est vraiment son témoignage, je pense, qui m'a complètement bouleversée. En fait, C'était à l'époque où nous mettions en place ces groupes d'enfants et d'ados. On prospectait un peu dans les institutions de placement bruxelloises pour voir s'il y avait des enfants concernés, qu'il y avait un parent en psychiatrie qui était placé pour ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de non-dits. On s'est présenté dans une institution un soir avec la psychologue qui allait s'occuper du groupe d'ados. C'était la fête de l'Aïd. Et donc il y avait plein de jeunes qui passaient, qui entraient, qui sortaient dans tous les sens. Et c'était un soir d'hiver, il faisait noir. Il faisait 18h30, 19h, il faisait froid. Et l'éducatrice qui nous ouvre la porte nous dit « Ah oui, les enfants d'eux, on a complètement oublié que vous deviez venir. Mais attendez, vous pouvez entrer quand même, venez. » Et on nous tape dans un salon, et puis on nous tape deux jeunes comme ça, et tout le monde s'en va. Débrouillez-vous avec eux. Et c'est vraiment indicateur de comment cette question-là, elle met plein de professionnels, plein d'adultes mal à l'aise. Parler de psychiatrie aux enfants, c'est vraiment un truc qui semble hyper compliqué pour les jeunes. Et le plus fou, et ce qui continue comme ça à m'étonner tout le temps, c'est à quel point c'est difficile pour les adultes de parler psychiatrie à des enfants, et à quel point, quand tu donnes la parole aux enfants, les enfants, ils l'apprennent, mais instantanément. Il y a une sorte de décalage, de case-vide comme ça, entre cette difficulté des adultes et cette simplicité avec laquelle les enfants l'abordent. Alors donc, voilà, on a dit à Christelle et à l'autre jeune qui était avec elle, ben voilà, nous, on met en place des groupes pour des jeunes, on voudrait bien écouter un peu leur point de vue, savoir quelles sont leurs questions, leurs vécus. Et Christelle nous a répondu, je m'en souviendrai toujours, toute notre enfance, mon frère et moi, on a accompagné notre mère à la consultation du CMP. Le psychiatre venait la chercher dans la salle d'attente, il la prenait, il la voyait et il la ramenait. Jamais il ne nous a dit ni bonjour ni au revoir. Et nous, on repartait avec notre mère et c'est nous qui allions acheter les médicaments. Et le psychiatre, je suis sûre qu'il n'a jamais vu comment elle était vraiment, parce qu'avec lui, elle se tenait. Il n'a jamais vu les crises qu'elle faisait à la maison. Et il y avait dans ce témoignage, c'était tellement lapidaire, tellement évident comme témoignage, il y avait à la fois de la colère, il y avait un sentiment d'injustice, et puis elle nous a dit voilà, maintenant moi j'ai demandé mon placement, donc elle avait 17 ans, j'ai enfin le temps d'aller à l'école, j'ai enfin le temps de m'occuper de moi, alors vos groupes auraient été bien pour moi avant, mais maintenant c'est trop tard, parce qu'il est temps que je pense à moi, et venir parler de ma mère, ce serait encore parler d'elle. Et voilà, ça disait tout. Ça a été pour moi le point de départ de tout un cheminement sur comment prendre en compte les enfants. Qu'est-ce qui fait qu'un psychiatre, dans une salle d'attente, ne dit ni bonjour ni au revoir aux enfants? Il y a un film absolument magnifique qui s'appelle La forêt de mon père, qui est fait par... C'est un film belgo-français. La réalisatrice s'appelle Vero Kratzborn. Et donc, c'est La forêt de mon père. Et c'est l'histoire de trois enfants. C'est un film qui est Alors, il n'est pas autobiographique, mais il est inspiré par des événements biographiques. Et donc, c'est un couple qui a trois enfants. Il y a une ado, un garçon de 9-10 ans, et puis une plus petite fille. Ils sont trois. Et le père décompense. Il est élagueur d'arbres, et puis il décide de plus élaguer les arbres. Et puis, tout ça à partir d'une conversation avec un chat. Mais bon... Donc, ils sombrent comme ça progressivement dans une sorte de folie et on assiste vraiment à comment une famille peut être complètement... Tous les mécanismes sont merveilleusement décrits. Le film est vraiment superbe. À un moment, le père est dans une grande surface avec ses trois enfants et il délire. Il se déshabille, les vigiles s'en mêlent, etc. Et donc, gros traumatisme. Comme ça peut arriver dans la vie réelle. Et donc le père est embarqué à l'hôpital avec les trois enfants et la mère vient les rejoindre à l'hôpital. Et dans la scène du film, on voit le psychiatre qui passe la tête par son bureau, voit la mère, les trois enfants assis devant son bureau. Son regard survole les enfants. Il s'adresse à la mère en disant « Je peux vous voir seule ?» Il l'emmène, on laisse les enfants seuls. Et quand il ramène la mère, il ne dit ni bonjour ni au revoir. Et la réalisatrice me racontait qu'elle a dû demander au comédien trois fois de refaire la scène. parce que le comédien, il ne savait pas s'empêcher de dire bonjour aux enfants. Et elle lui a dit, non, dans la vie, c'est comme ça. Le psychiatre, il ne dit pas bonjour aux enfants. Alors, ça peut sembler extrêmement choquant quand tu entends ça vécu et raconté comme ça. Et c'est extrêmement choquant du point de vue des enfants, parce que le psychiatre qui vient chercher... qui a vu le parent est peut-être la seule personne qui peut lui dire quelque chose sur ce qui arrive à son parent. C'est parfois, il y a des enfants qui vivent seuls avec un père, une mère très malade. Le psychiatre est parfois le seul qui soit au courant et c'est celui-là qui ne s'adresse pas. Et ça, ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, à l'époque j'étais encore pédopsie, donc dans mon CMP, j'ai trouvé les psychiatres en disant « qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est une sorte d'énorme malentendu. L'enfant, lui, il attend qu'on s'adresse à lui, d'être reconnu. Et pour le psychiatre, l'enfant, il fait un peu partie de la vie privée du parent. Ce serait intrusif de lui dire bonjour. Et donc, de son point de vue à lui, il est dans le respect. Là, du point de vue de l'enfance, il est violent. Et donc, c'est entre tout ça qu'il fallait commencer à tisser des ponts. Voilà, ça, c'est le point de départ.
Oui. Et bien, c'est une belle introduction parce que en fait tout le livre, c'est un peu comme tu viens de le faire. Et parce que ça part du vécu, de témoignages. Et c'est assez amusant. Enfin, moi j'ai travaillé en psychiatrie aussi, hein, donc je m'a intéressé particulièrement. Mais de voir comment les enfants y portent. Un diagnostic avec des images, avec leurs mots à eux. Et moi, ma mère, c'est une bougie. Hein. Elle est dure comme ça, mais à un moment, elle est molle, puis elle fond. Et en fait, à travers des images comme ça, mais ils disent beaucoup, beaucoup de choses. Et toi, bon, je sais pas, je pense que tu en as beaucoup d'exemples comme ça, je suppose. Il y en a plein de livres.
Je me souviens très bien de cette petite fille. Alors, Cathy et moi, on est vraiment partie des témoignages des enfants qu'on rencontrait, mais aussi de leurs dessins. Alors, il y a on utilise beaucoup les collages. Et la couverture du livre, elle représente un arbre qui semble un peu décharné, un peu avec une petite caverne au milieu et un enfant dedans. Et c'est un jeune garçon d'une douzaine d'années qui fait ce collage. Et voilà ce qu'il en dit. Il dit, ce garçon est monté dans son arbre. Il l'a choisi parce qu'il a l'air magique avec ses branches toutes tordues. Il est seul, c'est triste, mais de là-haut, il voit l'horizon. La nature lui fait du bien, les gazouillis des oiseaux et le bruit des feuilles le détendent. Il pleure, mais il rêve aussi. Il rêve à son futur, c'est son petit cocon. Il y a beaucoup de raisons, pas toujours facile à identifier. Il a 12 ans. Hein. On souffre de voir son parent souffrir. On souffre de ne pas avoir un parent comme les autres. On regrette de ne pas avoir une enfance ou une adolescence normale. Alors, ça, c'est son témoignage à lui, mais je trouve que quand les enfants commencent à parler de la maladie du parent, de ce qu'ils voient, et c'est... Alors, le temps a passé, donc maintenant, je viens au temps présent où je travaille dans un hôpital psychiatrique pour adultes. Je travaille dans l'équipe mobile de crise qui va à domicile. Et forcément, quand on va à domicile, on voit des enfants au domicile qui sont là avec les parents. Et donc, on fait de la consultation familiale avec enfants autour de la question tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la maladie de votre parent sans oser le demander. Ça, c'est la consigne qu'on leur donne. C'est vraiment un lieu où vous pouvez poser toutes les questions. Et on commence toujours avec, tiens, est-ce que vous savez ce que votre père ou votre mère il fait ici? Ou bien pourquoi est-ce que l'équipe mobile vient le voir? Est-ce que vous avez remarqué, tiens, et quoi? Et depuis quand est-ce que vous l'avez remarqué? Et à quoi vous le voyez qu'il n'est pas bien? Et les enfants vous donnent comme ça des petits signes. Ah ben maman, avant elle racontait des histoires, puis maintenant elle n'en raconte plus. Oh ben ça fait longtemps. Ah oui, c'est quand je suis entrée au CP. Ah ben ça fait quand même 2-3 ans, oui. Et puis tu vois d'autres choses. Oui, elle pleure beaucoup. Elle ne mange plus, elle nous fait à manger, mais elle ne mange pas. Enfin, ils voient des choses que les cliniciens, ils ne voient pas. Ils ne voient pas parce qu'ils ne sont pas dans la vie réelle avec les gens. Et les enfants, en plus, alors je trouve que ce qui est parfois un peu dangereux, c'est que comme personne ne leur explique, on veut les protéger. C'est toujours l'idée. On veut protéger les enfants. Et comment on veut protéger les enfants? En leur disant rien, en se taisant, en espérant, parce qu'on pense que parce qu'on ne leur en parle pas ou qu'on ne leur demande rien, ils ne voient pas. C'est le contraire, évidemment, qui se passe. Les enfants, ils sont témoins. Et donc, les laisser dans le silence, c'est vraiment les laisser forger des explications qui ne sont pas toujours les bonnes. Donc, c'est « j'ai eu un mauvais bulletin » ou « les derniers enfants que j'ai vus, c'était « on se dispute trop ». On se dispute trop, on énerve maman. Enfin, donc, ils se forgent comme ça des explications où souvent, ils sont pour en partie responsables de la maladie du parent. Et donc, il y a... Ou parfois, on ne l'aime pas assez. Ça revient aussi. On ne lui donne pas assez d'amour. Et donc, on est souvent amené... Enfin, dans la plupart de ces consultations, Stéphanie Tange, qui est la responsable de l'espace d'enfants, et moi, qui est infirmière, on doit souvent détricoter les choses en expliquant... Alors, on y va à la grosse louche, hein. Si ta maman est avec une pneumonie au lit et 40 de fièvre, est-ce que tu penses vraiment que c'est ton amour qui va la guérir? Ah ben non, il faut des médicaments, etc. Il dit bien, une dépression, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que tu penses que l'amour, ça guérirait une dépression? Non, alors, c'est exactement comme la pneumonie. Si tu es avec 40 de fièvre au fond de ton lit et que tu n'es pas bien, tu es content d'avoir une famille aimante autour de toi, des enfants qui, justement, font un peu attention, montrent qu'ils sont conscients que tu es malade et qu'ils essaient de te donner un coup de main. Mais dans la maladie mentale, c'est exactement la même chose. Il vaut mieux être malade avec une famille qui fait au mieux près de soi plutôt qu'avec des gens qui te critiquent, te maltraitent, enfin, ce qui est parfois le cas, malheureusement, dans certaines familles. Et donc, il faut séparer comme ça cette croyance que l'amour guérit la maladie mentale dans beaucoup de familles.
Mais même quand on... je ne sais plus si c'est toi ou si c'est ta collègue qui demande à un enfant comment tu vois la chose par exemple de quelle maladie elle souffre ta mère et est-ce que tu as entendu des mots par exemple toi ma psychose ma sœur de ça
oui oui le noyau
et, ouais, et,
oui oui oui
et finalement le gosse elle, bon ouais, oui mais c'est quoi la psychose alors on explique ce que c'est que la psychose. Non, c'est pas ça. Hein, toi. Et en fait, elle traduit après la maladie de la peur, je crois.
C'était, ah oui, oui, oui.
C'était vraiment...
Oui,
mais
oui.
Ça coule de source. Mais c'est là qu'on se rend compte que les enfants, non seulement ils entendent, mais ils portent vraiment un diagnostic et que les professionnels, ben, ils ont plutôt intérêt... à tenir compte de l'apport. Quoi.
Alors, ça, je trouve que c'est vraiment une question politique, justement. Mmh. C'est toute cette connaissance qu'ont les enfants, le fait de leur reconnaître, le fait qu'ils ont un savoir, qu'ils ont le droit d'être reconnus, qu'ils ont le droit d'être entendus. Et en plus, qu'est-ce que c'est utile aux professionnels de les écouter, en plus, parce que c'est parfois les premiers à détecter qu'une maman va repasser en état dépressif ou en état maniaque. Enfin, c'est des très bons diagnostiqueurs. Ils sont très, très fins cliniciens, les enfants. Mais politiquement, je trouve que c'est vraiment une question sur laquelle il faut avoir l'œil. Parce qu'on commence. Alors, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ça fait 20 ans que des gens au Canada, en France, en Hollande, en Belgique, commencent à s'intéresser un peu aux enfants. Mais du coup, ça devient un enjeu un peu récupéré dans le sens où les enfants aidants, les enfants pères aidants deviennent un peu surmis en valeur comme ça, comme si l'enfant qui est père aidant faisait un super boulot qu'il faut absolument valoriser et donc il faut leur faire des formations, il faut les réunir et c'est vraiment une sorte de détournement de tout ce que nous, professionnels, on peut dire de ça. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune validité au fait qu'un jeune soit obligé de s'occuper en même temps de sa mère qui conduit à 15 ans à la consultation dont il s'occupe plusieurs heures par semaine, en s'occupant en plus de ses petits frères et sœurs, etc. Il n'y a aucune justification au fait qu'une jeune fille ou un jeune homme qui fait ça soit obligé de faire ça tout seul. Tout seul. Et cette tendance qu'on a actuellement, enfin, c'est Hélène Daftian, ici en France, qui est chargée de recherche auprès des jeunes proches et parentalité, le fait souvent remarquer. Comment dire, l'enfant, il est mis dans cette situation, il n'a pas choisi cette situation-là. Il est contraint par la situation d'exercer cette fonction qu'on appelle parentification hein, ou adultification. Il est contraint de le faire de par la situation. Les enfants sont spontanément aidants. On le voit déjà chez des tout-petits-enfants, ils essayent d'aider les enfants. Mais il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le fait de survaloriser cette position-là, en les formant en plus, alors qu'en fait, il s'agit au contraire de ne pas les laisser seuls dans cette situation et de pouvoir être avec eux, à côté d'eux, à chercher des solutions. Trop souvent, on est dans un type de solution qui est soit de les placer, et c'est extrêmement violent. Moi, je me souviens d'une... Il n'y a pas d'enfant ici. D'une petite fille qui avait été placée, sa mère est morte 2 jours plus tard. Elle s'est suicidée. Cette gamine, deux ans plus tard, elle ne s'en remettait pas. En fait, le juge lui avait dit, est-ce que tu es d'accord? Il avait vu cette petite fille et lui avait demandé, est-ce que tu es d'accord d'être placée? La petite avait répondu oui. Et puis sa mère meurt 2 jours plus tard. 2 ans plus tard, elle était à ma consultation. Et elle me reparle de ça, elle me dit si j'avais pas dit oui au juge, ma mère ne serait pas morte. Alors on est retourné voir le juge de la jeunesse, qui a pu vraiment faire son mea culpa. Elle avait préparé ses petites questions avec elle, on est retourné voir le juge. Et alors elle lui a demandé, et si j'avais dit non, est-ce que tu m'aurais placé? Et il a dit, oui, évidemment je t'aurais placé, et c'est une question que je n'aurais jamais dû te poser, je ne me suis pas rendu compte à l'époque de ce que je te demandais. Et bon, elle a été très soulagée de ça. Donc l'idée n'est pas de voir où placer les enfants ou leur donner des outils pour qu'ils s'occupent encore mieux de leurs parents. Non, l'idée, c'est comment être à côté d'eux et réfléchir avec eux. Et parfois, le premier service qu'on peut rendre à un enfant, c'est justement de mettre en place les intervenants qu'il faut, que ce soit des infirmiers à domicile, des équipes mobiles à domicile, il y en a de plus en plus, de prévoir une hospitalisation en impliquant l'enfant dans la réflexion de est-ce que ça tient encore la route ou pas, etc. De le considérer, non pas comme un enfant qui ne sait pas, mais comme un être responsable. Moi, je dis que la responsabilité, elle n'a pas d'âge. Un enfant, l'enfant, dès tout petit, peut se sentir responsable et être considéré comme quelqu'un de responsable qui peut participer à une décision dans ce genre de situation.
Mais en même temps, c'est ce rôle d'aider l'enfant qu'on met dans une situation de fait, ça incombe à la société. Hein. C'est une défaillance de notre système de soins de ne pas offrir, dès qu'il y a un drame et une maladie mentale, c'est toujours un drame au sein d'une famille, de ne pas mettre en place les choses qu'il faut, quoi, tout simplement. Et demander à un gosse de gérer une situation comme ça, alors que souvent dans les hôpitaux psychiatriques, on n'y arrive pas. Parce qu'on s'y prend mal, on manque d'arguments, on n'a pas les infos. Les infos par exemple des enfants, non, on hospitalise les parents, les enfants ils sont placés, hop, ils sont hors jeu, mais on ne saura rien de ce qui se passe dans les familles.
Alors, je discutais justement en Suisse il n'y a pas longtemps avec il y a une association enfants aidants qui se met en place. C'est des enfants qui ont grandi dans cette situation-là et qui, adultes, ont décidé d'aider d'autres enfants qui étaient encore dans cette situation-là, notamment avec des actions de parrainage. Donc, un adulte parraine comme ça un enfant plus jeune dans cette situation. Et Florian, un des fondateurs de l'association, me disait « Mais moi, je m'en suis sortie parce que je me suis tue. » Il vivait une situation complètement avec une maman vraiment qui avait des épisodes psychotiques extrêmement graves. Et donc, en fait, il s'est tu parce que il savait très bien que s'il allait en parler, on allait le placer ainsi que sa sœur. Et donc, on est face avec des enfants qui se défendent de la société. qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur des conséquences de leurs paroles. Et c'est ça qui ne va pas. Tu vois, quand je racontais tout à l'heure dans la salle d'attente, le psychiatre qui dit « ça, c'est la vie privée », c'est comme si on commençait à s'en mêler quand l'enfant était vraiment en danger. Mais avant qu'il soit vraiment en danger, tu fais rien. Et l'enfant se tait parce qu'il n'y a rien d'imaginable, en tout cas, encore, où il pourrait... vers des lieux où il pourrait s'adresser pour qu'on réfléchisse avec lui à ce qu'on peut faire pour que à la fois il puisse rester dans sa famille et à la fois que son parent puisse être soigné, quoi.
En gros, c'est nous qui le mettons en danger, quoi. Mais on donne pas la réponse que qu'il a en droit d'attendre, parce que bon, je pense qu'on est dans une société, d'autant plus qu'on est un pays riche, on a les moyens. Je ne comprends pas, moi, qu'on puisse manquer de personnel dans un hôpital. C'est un choix de société. D'autant plus que c'est souvent la société qui nous déglingue. Hein, et il y a une grande partie des situations dont on met les gens dans des situations tellement inextricables que forcément, ça ne peut pas aller bien. Hein, je veux dire, et puis après, on n'assume pas. Voilà, on n'a pas les moyens. Par contre, s'il faut fabriquer des armes, des bombes, etc., là, il y a des sous, renforcer les services de sécurité, plus de gendarmes, plus de... Là, il y a des sous. Mais par contre, pour l'hôpital ou pour s'occuper des gens, mais pour leur bien-être, alors ça ne rapporte pas. Hein. Et puis bon, qu'on ne nous dise pas que c'est un coût aussi, là je fais une petite dérive parce que moi je rappelle quand même que dans une société, la sécurité sociale, le soin, l'éducation, c'est une part de la richesse produite collectivement qui est affectée à traiter un certain nombre de sujets, l'éducation, la santé, et que donc ça ne peut pas avoir, on ne peut pas par exemple, la sécu en dette, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas entendable. C'est-à-dire que ici, il y a une plus grande partie qui est affectée aux soins parce que c'est comme ça. Hein. Si on fait une société où il y a un maximum de gens qui iront bien, et ça nous coûtera moins cher. Il faut prendre des problèmes comme ça. Quoi. Et la psychiatrie, c'est encore pire parce que c'est le parent pauvre des soins. Je suis bien placé pour en parler. Hein. J'ai travaillé 35 ans en psychiatrie avec des enfants. Et que dire, c'est souvent réduit au gardiennage. Hein. Et on n'est pas là, je ne sais pas, on ne fait pas des études d'éducateurs spécialisés ou de psychiatres, etc., pour organiser le gardiennage. Hein, et quand il y a des réformes et tout ça, sous des aspects bénéfiques, on nous fait passer des trucs, des solutions, des propositions qui vont faire que ça va coûter moins cher. Hein. Bon, je vous donne un exemple, ce sera peut-être plus clair. Moi, j'ai travaillé en hôpital psychiatrique. Il y avait, quand je suis arrivé, dans les années 70, je suis très vieux, il y avait 200 enfants dans les murs de l'hôpital psychiatrique. Bon, alors effectivement, quand on a, nous, prôné les hôpitaux de jour, hein, c'est quand même mieux. C'est quand même moins asilaire, c'est des petites structures. Mais en fait, pourquoi le système capitaliste dans lequel on est a plutôt accepté d'un bon œil ces propositions qui sont bénéfiques de toute façon, il ne faut pas le nier. C'est simplement parce que l'hôpital psychiatrique avait un prix de journée qui coûtait bonbon, comme on dit, qui coûtait très cher. Et que quand tu prenais en charge les enfants en hôpital de jour, ça coûtait moins cher. Et puis ensuite, on va faire une proposition. Ah, mais on n'a qu'à faire des ateliers thérapeutiques dans les CMP. C'est-à-dire qu'on va les prendre en charge quelques heures dans la semaine, etc. Ça coûtera encore moins cher. Et du coup, tous les aspects bénéfiques pour lesquels on va pousser nous, eh ben, on va se faire avoir finalement parce qu'on n'aura pas plus de temps à consacrer à des enfants qui seront pris en charge quelques heures dans une structure ou à la journée dans des hôpitaux de jour.
Mais c'est ce qui se passe en Belgique. Alors, on a de la chance en Belgique parce que l'état de la psychiatrie n'est absolument pas du tout, j'espère que je ne dois pas dire encore, celui de la France. Mais malgré tout, on arrive quand même à une situation où il y a de moins en moins de psychiatres. Donc, c'est un peu une catastrophe. 6 mois, 7 mois, 8 mois de liste d'attente pour voir un psychiatre. Mais ceci dit, il y a une diabolisation de l'hôpital psychiatrique. Et la réforme en santé mentale, c'est vraiment basé sur tous les excès qui ont eu lieu en hôpital psychiatrique. Ce que tu dis, du gardiennage, des gens qui ont traîné pendant des années en hôpital psychiatrique, etc. Pour dire ben, il faut diminuer drastiquement, il faut geler des lits d'hôpitaux pour développer l'ambulatoire. C'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivée à l'hôpital de Manage il y a 14 ans. Non, en fait, j'ai été engagée pour justement ouvrir l'hôpital psychiatrique désinstitutionnalisé, mais amener comme ça toute la psychothérapie institutionnelle et une respiration dans l'institution. Et très vite, je me suis retrouvée aux équipes mobiles parce que la réforme était passée par là et qu'il fallait geler des lits et aller travailler au domicile. Alors, j'adore ce travail. Enfin, je préfère 1000 fois travailler au domicile que dans un service psychiatrique. Je suis aussi responsable de l'hôpital de jour qui, lui, est un tout autre lieu qui est super intéressant aussi. Mais moi, j'ai toujours soutenu que, voilà, il y a des hôpitaux qui ont travaillé d'une certaine manière, mais il y a aussi des hôpitaux qui font un boulot absolument remarquable et qu'il fallait en même temps et soutenir la qualité du travail dans les hôpitaux psychiatriques et surtout ne pas diminuer le nombre de places et développer les prises en charge à domicile. Et on voit bien, enfin je vois bien dans le réseau autour de moi, il y a des hôpitaux, des services psychiatriques d'hôpitaux généraux où un patient en 20 jours ne voit pas un psychiatre. En 20 jours ne voit pas un psychiatre. Et puis le patient sort et puis il y a un suicide. Et puis un statisticien en école de santé publique qui va nous dire il y a beaucoup plus de suicides chez les gens qui sortent de l'hôpital psychiatrique dans le mois qui suit la sortie de l'hôpital psychiatrique ou d'un hôpital général. En fait, c'est que les gens n'ont pas été correctement pris en charge. Lui, la conclusion qu'il tire, c'est les hôpitaux ne sont pas bons. Enfin, on est toujours dans des espèces d'interprétations comme ça, absolument des raccourcis effroyable, mais si on travaille bien en hospitalisation et qu'on travaille bien en ambulatoire et qu'on articule les deux et qu'on peut vraiment mettre en place des soins de deuxième ligne et de première ligne articulés à une hospitalisation, là vraiment ça donne des résultats et j'en ai plein de résultats quand on arrive à travailler comme ça. Ce qui ne va pas, c'est quand la qualité manque, quand la qualité manque au niveau des hôpitaux. Mais ça tient beaucoup aux directions, ça tient beaucoup aux médecins responsables, ça tient beaucoup à la volonté de l'hôpital, en fait. Alors, nous, en Belgique, on n'est pas sectorisé. Je pense qu'en France, la sectorisation, ça amène aussi d'autres difficultés où les gens n'ont pas toujours le choix. Enfin, je me souviens d'une maman un peu désespérée qui m'avait appelée en disant « Ma fille est si bien dans l'hôpital, mais c'est pas dans mon secteur, on ne peut pas y retourner. » C'est encore d'autres questions que nous, on ne connaît pas encore en Belgique, en tout cas. Mais globalement, je dirais qu'il y a une sorte de position des services publics qui est de cliver, de dire « Les hôpitaux sont mauvais, l'ambulatoire, c'est bien. » et qui voilà, qui amène pas à des choses constructives.
Mais en même temps... Attends, parce qu'il y a un micro, c'est enregistré, c'est en direct. Donc tu peux... Non, mais tu peux poser la question. Il va y avoir...
Avec le micro.
Pas de problème. Mais...
Est-ce qu'il n'y a pas un niveau intermédiaire entre la prise en charge à l'hôpital et la prise en charge en famille, qui est la communauté, le groupe, la collectivité?
Il faut qu'il parle plus près, mais sinon ça... Voilà.
Mais complètement, et on y revient à propos des enfants, tu vois, où la situation reste malheureusement, où on les laisse vivre avec, c'est que ça tient, où on les place. Et le niveau qui manque entre les deux, c'est justement cette idée de « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et que voilà, il faut mettre des personnes qui réfléchissent, qui sont aux côtés de l'enfant, que ce soit du secteur adulte ou du secteur enfant d'ailleurs. Un des problèmes, je trouve que c'est cette espèce de division. On a parlé de la division du travail à l'époque, mais c'est quelque chose de toujours. Cette division continue toujours de m'étonner. Les psychiatres adultes se sentent pas autorisés à parler aux enfants. Pourquoi ? Ils disent, on n'a pas de formation enfant. Je dis, mais vous avez des enfants. Oui. Vous leur avez parlé de votre métier. Oui. Vous en parlez comment de votre métier ? Oh, c'est pas toujours facile. La fille d'une collègue était allée chercher à la bibliothèque, l'avait ramenée de l'école, de la bibliothèque de l'école, un petit livre qui est « Lily n'aime pas quand maman boit trop ». Et vous voyez la série des Lily, les petits livres pour enfants. Et sa mère lui a dit « Mais t'es folle, t'as ramené Lily n'aime pas quand maman boit trop de l'école, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» etc. Mais je bois pas trop, enfin, c'est quoi ?» Et enfin si, je bois trop de temps en temps, mais... Et puis j'ai dit à ma collègue, j'ai dit « Mais enfin, t'es quand même, tu travailles en alcoologie. » Ben oui, qu'elle me dit. Ben, je dis, ça t'étonne que ta fille, elle s'intéresse à ton boulot ? Oh, ben j'avais pas pensé à ça. Et donc, ça montre à quel point la stigmatisation, la peur de la stigmatisation, elle est présente même chez les professionnels. Même chez les professionnels, il y a... Alors, t'as cette division. Alors, tout ça, il y a toujours des raisons derrière, souvent inconscientes. Mais l'adulte, il est fait pour parler aux adultes. Le pédopsychiatre, il est fait pour parler aux enfants. L'hospitalier, il est fait pour travailler à l'hôpital. L'ambulatoire, il est fait pour travailler... Et donc, il y a une espèce d'éclatement comme ça, où chacun est dans sa spécialité, parfois son hyper-spécialité. Maintenant, il y a des services pour bipolaire, des services pour borderline, des services pour... Et donc, il y a cette question de la globalité qui n'est... Enfin, Toscaïès, qui est un des grands résistants, qui était à Saint-Alban, un psychiatre, disait « On n'a pas fini de diviser l'être humain en tranches, en tranches d'enfance, d'ados, d'adultes, etc. » C'est une chose. Mais la question du collectif... Comment la réintroduire ? Je trouve que c'est vraiment une question. Hein. Comment tu pourrais, que ce soit dans des lieux, des CMP, des hôpitaux, etc., réintroduire quelque chose de l'ordre de que tout le monde est concerné par cette histoire-là ? Et que ce n'est pas parce que tu t'occupes de l'enfant de ton voisin que tu es en train d'être intrusif dans sa vie privée, quoi. Je me souviens d'une petite fille qui... que j'ai vue adolescente et qui racontait la première fois que sa maman était partie en phase délirante, la mère est partie en rue en enfermant la petite derrière elle. Et puis elle est arrivée, la police, l'hôpital psychiatrique, etc. Et donc finalement la police est allée délivrer cet enfant et qui a été hébergé par la voisine. Et on reparlait de ce moment-là. Elle me disait qu'elle avait eu très peur quand la police avait défoncé la porte pour la récupérer. Mais je lui dis, et ta maman, t'as eu peur de ce qui s'est passé avec elle ? Ah ben non, c'est la voisine qui m'a expliqué. Elle a des petits bonshommes qui parlent et qui courent dans sa tête. Et ça a fait tellement sens pour elle. C'était un petit mot dit par une voisine, mais qui ont permis de comprendre quelque chose de la maladie. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein, les images, etc., mais qui sont souvent plus justes que les diagnostics, hein, parce que bipolarité, qu'est-ce que ça veut dire ? Schizophrénie, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme me disait une patiente, schizophrénie, avant même que le mot soit fini, on a déjà compris que c'était très, très compliqué.
Oui, puis en plus, il y a les frontières entre les maladies mentales. Alors, c'est sûr que nous, on est dans un système très hiérarchisé, etc. Alors, du coup, maintenant, même, on définit des SM 3, 4, 5, je ne sais plus combien on en est. Tu vois, alors, c'est les symptômes. C'est-à-dire que maintenant, on catégorise les gens en symptômes. Et si, voilà, tu as tel symptôme, et ben tu as telle maladie, tu as tel médicament. Et puis, voilà. Donc... Mais ça déresponsabilise complètement l'être humain. L'être humain, c'est quelqu'un de complexe. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de... On peut effectivement porter des diagnostics. Il y a une partie qui est somatique, qui est physique et qui bon, on a des réponses médicamenteuses, mais si la prise en charge maintenant elle compte aussi, hein. Si on compte que sur les médicaments, alors effectivement on pourra bientôt remplacer les infirmiers par des robots, hein, dans la société qu'on,
et soigner par l'intelligence artificielle.
Voilà. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Là, quand on parlait de sectorisation, enfin non, c'est pas sectorisation
Moi, je parlais de division.
Ouais, de division, etc. Mais c'est complètement aberrant. Je veux dire que on joue l'ambulatoire contre l'hospitalisation. C'est la même chose. En fait, ce qu'il faut, c'est... Alors, c'était un peu l'esprit de la sectorisation en France, mais c'est tellement dévalorisé, dévié, déformé, qu'on se retrouve avec plus de problèmes que de réponses, alors que c'était quelque chose de plutôt bien. De dire, si on travaille en équipe, en plus qu'on utilise des méthodes comme, par exemple, l'entraide, ça coûte pas cher, hein, c'est pas un médicament, l'entraide. Hein, et qu'est-ce qui empêche un enfant ou un adulte être traité en ambulatoire et puis qu'à un moment de crise, etc., il y ait la possibilité d'une hospitalisation pas forcément de très longue, hein, qui peut même être laissée au choix du patient dans les trois quarts du temps, hein. C'est-à-dire que bon, ben, s'il faut 2 jours, s'il faut 3 jours pour se requinquer, etc., y revenir, et puis mettre en place dans le cadre de l'ambulatoire la prise en charge des enfants avec tout un justement le voisin, les voisines, etc. Il n'y a pas besoin de placer forcément les gens quand c'est juste pour quelques heures, quelques jours. Et ça, c'est des choses qu'on a perdues. C'est-à-dire la gestion par le collectif du mal-être des gens. Et ça, on le fait quand il y a une situation, je ne sais pas moi, que, il y avait eu un incendie dans le village, la maison a cramé et la personne se retrouvait sans rien, mais il n'y a pas eu d'institution, je veux dire, les gens ils sont réunis et voilà, et il faut des fringues, il faut des couvertures, il faut trouver un logement mais ça s'est fait, allez, naturellement. Tu vois, ce genre de truc, ben, il faudrait qu'on ait tout ça à l'esprit. Hein.
Alors, chez nous, en Belgique, quand une maman solo avec un enfant est hospitalisée, l'enfant est placé. Si, en psychiatrie, on sait que ce n'est pas comme une appendicite, ce n'est pas pour 3-4 jours, c'est pour au moins 3-4 semaines. Et donc, si tu veux trouver une place en famille d'accueil d'urgence, il y en a très peu, mais de toute façon, tu dois passer par le service d'aide à la jeunesse. Et si c'est une place en institution aussi, évidemment. C'est pour ça que les mères en particulier, qui sont seules avec des enfants, repoussent des soins nécessaires, parce qu'elles ont peur, et à juste titre, que leur enfant soit placé, parce qu'elles ne sont jamais sûres de le récupérer, l'enfant placé. Hein. C'est des espèces de spirales comme ça, où une fois que tu es hospitalisé, comme avec ton enfant a été placé, en sortant, tu dois prouver que tu es capable de t'occuper de ton enfant. Mais je ne sais pas qui d'entre nous pourrait prouver qu'il est capable de s'occuper de son enfant. Ouais, c'est un truc, moi, quand je vois ce que les services d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse exigent de la part de parents qui sont passés par l'hospitalisation en psychiatrie, c'est des trucs que moi, je n'aurais jamais pu faire.
Et puis même cette
et donc, mais attends, on parlait de... J'ai perdu le fil, du coup.
Je suis désolé.
Mais... Donc... Zut. De quoi tu parlais juste au moment où je t'ai interrompu ?
Non, c'est moi qui t'ai interrompu. c'est un sketch, c'est en direct. C'est...
Bon.
Oui, je ne retrouve plus le fil. Mais bref, celui que j'essayais de suivre, en tout cas, c'est celui de la question de monsieur qui est qu'est-ce qui peut un moment refaire collectif ? Qu'est-ce qui peut faire... chez nous, comme ça, un peu intermédiaire entre l'hôpital, l'ambulatoire et qu'il soit d'ordre collectif. Je trouve que c'est une bonne question. On parle beaucoup de père aidance en France aussi, des groupes d'entraide mutuelle, la père aidance. Donc, heureusement, on avance sur cette question-là. On a peut-être loupé une question ? Non, d'accord.
Non.
Okay. mais donc... ah oui, c'est ça. Voilà, je voulais revenir sur comment sortir aussi des cases dans lesquelles on se sent complètement assigné. Et ça peut même exister au sein de l'hôpital. Ce que tu disais me rappelait une situation qui s'est passée il y a quelques années à l'hôpital. On est un vendredi midi, et il y a une patiente qui est hospitalisée dans un service et qui avait annoncé à son mari qu'elle le quittait. Elle avait rencontré quelqu'un d'autre dans le service pour qui elle voulait quitter son mari. Ça arrive assez souvent dans des services de psychiatrie, des patients tombent amoureux l'un de l'autre parce qu'ils ont des parcours un peu similaires et qu'ils se sentent compris mieux par quelqu'un qui est passé par là que par quelqu'un qui n'est pas passé par là. Et donc le mari arrive avec leur petite fille de 6 ans et il essaye de la tuer. Donc il brandit un scalpel et il l'attaque à la gorge. Elle en réchappe de peu, mais bref, on est vendredi midi, la mère est partie en ambulance aux soins intensifs, le père est en fuite, poursuivi par la police, et la petite est là, elle a 6 ans, elle est seule dans ce service de psychiatrie où on m'appelle. Alors, un dispositif que j'ai eu la chance de pouvoir créer à Manage et qui est magnifique, c'est ce qu'on appelle l'espace enfant-famille. Donc c'est des permanences le mercredi et le samedi après-midi où toutes les familles avec enfants peuvent venir, se retrouvent, sont accueillies. Et les permanences sont assurées entre autres par des gens qui sont détachés des services, qui viennent faire 2 heures, 4 heures à l'espace enfant. Et il y avait justement dans ce service une éducatrice qui connaissait cette petite fille parce qu'elle l'avait vue à l'espace enfant. C'est des petits trucs tout simples, hein, comment tu peux bricoler au sein même de l'hôpital des petits trucs comme ça qui ne coûtent pas cher, mais qui amènent beaucoup. Et donc l'éducatrice m'appelle en disant il faut qu'on discute avec elle. Et donc déjà tu te rends compte que les perceptions des adultes et des enfants ne sont pas les mêmes, parce que je débriefe un peu avec elle et je lui dis mais t'as dû avoir peur quand t'as vu tout le sang qui coulait, et elle me répond ah non, j'ai pas eu peur de ça parce que maman, ben, elle boit trop, c'est pour ça qu'elle est à l'hôpital, elle a 6 ans, hein. C'est pour ça qu'elle est à l'hôpital, mais donc elle est déjà tombée à la maison, à la table en verre, donc du sang j'en ai vu, c'est pas ça qui m'a fait peur. Ce qui m'a fait peur, c'est de voir papa faire du mal à maman, et ça j'avais jamais vu. Et donc, elle met tout de suite. Et je l'aurais revue après avec sa maman, etc. Mais dans ce vendredi midi-là, en fait, la question très chaude, c'est où va-t-elle aller, cette petite fille ? Donc, on fait le tour avec elle des proches, oncles, tantes, frères et sœurs, personne. C'est une famille complètement isolée, en fait, ce qui est quand même souvent le cas quand il y a des gros problèmes. Et donc, on ne trouve pas. Et donc, je lui dis, mais écoute, voilà, l'instant social du service, il a prévenu un jeu de la jeunesse pour qu'on essaie de trouver une place en institution. Il faut bien que tu ailles dormir quelque part. Et donc, il y a des centres d'accueil d'urgence qui sont prévus pour ça. Et la petite de 6 ans me regarde comme ça. Elle me dit, moi, en institution, mais il n'en est pas question. J'ai ma rentrée à l'école lundi. Mon cartable est prêt. Ma copine m'attend. Moi, je ne veux pas partir d'ici. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas dormir ici ? Dormir ici, c'est dormir à l'hôpital psychiatrique pour adultes. Je dis, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Pourquoi tu ne pourrais pas dormir ici ? Donc, j'appelle ma direction, mon médecin-chef d'abord, qui était justement avec le directeur général, ça tombait bien. Je dis, écoute, voilà, il y a une petite, si on la place aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quand... Mais t'es folle, c'est pas possible, etc. On va trouver une autre solution. Je dis, essaye d'en trouver une à mon médecin-chef. Une heure plus tard, il n'y a toujours pas d'autre solution. Entre-temps, ils ont discuté avec la chef nursing, etc. Et il me dit, écoute, si le juge est d'accord, on peut peut-être la garder jusqu'à lundi. Mmh. Le juge était reconnaissant au téléphone. Oh, merci. Parce que trouver une place en centre d'accueil d'urgence, c'est déjà... Alors, c'est ici que... Et donc, la petite est restée, elle a passé le week-end. Le lundi matin, la maman est sortie de l'hôpital, elle a récupéré sa fille, elle est rentrée chez elle. Et on a évité le placement, en tout cas, à ce moment-là. Et je trouve que c'est vraiment des moments tellement importants, parce que c'est vraiment des trajectoires de vie qui s'infléchissent à certains moments. Si cette petite avait été placée le jour même, elle allait en centre d'accueil d'urgence... Elle ratait son entrée, sa rentrée à l'école, à 6 ans, elle ratait sa copine. Après avoir vu son père agresser sa mère, donc c'est quand même drôlement traumatique, elle aurait été arrachée de chez elle, de son école, de ses copines, de son quotidien, de sa rue, de ses odeurs. Enfin, dans le livre de Delphine de Vigan, « Rien ne s'oppose à la nuit », elle raconte ça magnifiquement. Elle aurait été arrachée de tout ça, placée dans un centre, en plein trauma, placée dans un centre avec des gens qui n'avaient pas vu ce qu'elle avait vu, et déplacée tous les 3 jours, parce qu'en Belgique, c'est comme ça, quand les premières places disponibles en centre d'accueil d'urgence. Il y aurait eu sans doute une évaluation de la maman. On aurait dit que comme elle sortait de psychiatrie pour des problèmes d'alcool, elle aurait eu un peu de mal à prouver qu'elle était capable de s'occuper de sa fille. Et je pense que la gamine, elle aurait risqué d'être toujours placée. Mais c'est comme ça que tu crées du handicap, des fragilités chez l'enfant. C'est pas la mère ou le père en traumatisant directement qui va causer tous les problèmes que cette petite fille pourrait avoir. C'est le fait que après un trauma, on l'arrache complètement de tous ces ancrages, donc on crée du trauma sur du trauma. Tu crées de la déscolarisation, parce qu'elle aurait raté son entrée, elle n'aurait pas été scolarisée tout de suite, ça faisait encore une année de loupée, etc. Et c'est comme ça que tu as des destins comme ça qui à un moment basculent, parce qu'une décision de placement trop rapide et pas de solution alternative. Alors pour nous, ça a vraiment été... super intéressant de voir comment un hôpital peut à un moment dire ah ben oui, on sort de notre cadre. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas héberger un enfant pourvu que le juge soit d'accord 2 jours? Bon, ça n'a rien coûté, hein, on n'a pas facturé. Il fallait que l'hôpital l'accepte. Ouais. Et maintenant, je suis très contente parce que quelques années plus tard, dans le nouveau service d'accueil d'urgence, on a créé une chambre familiale pour qu'au moins, et maintenant qui est reconnue comme telle, pour qu'au moins un parent hospitalisé en crise puisse être accompagné de son enfant ou de son conjoint.
Parce qu'il faut faire vraiment attention. On peut être maltraitant en institution. Hein. C'est-à-dire, parce que là, ça porte un nom, hein, ne pas trouver la solution qui est la... Ah, c'était pas compliqué à trouver quand même, hein, bon, dans cet exemple-là. Et pourtant, les 3/4 du temps, bon, voilà, t'as la hiérarchie qui appelle la hiérarchie, ça peut pas se faire, c'est interdit, et c'est... On est toujours confronté. Moi, j'ai été confronté à des cas... vous savez que quand on est hospitalisé en psychiatrie en France, on a un dossier. Alors, imaginez... quand un gamin arrive en hôpital psychiatrique pour trouble de comportement, que tu discutes avec eux, mais tu as tout de suite compris en discutant avec le gamin que c'est des conditions sociales. Le gamin, il a pas des troubles psychiatriques, il a des troubles de comportement parce qu'on le met dans une situation où il peut pas gérer, c'est un gamin. Et donc, on lui fait un dossier. Il est en psychiatrie, alors bien sûr, faut pas trop cracher dans la soupe, comme on dit, hein, mais il y a des équipes, le gamin, il va pas rester en psychiatrie s'il n'a rien à y faire, mais n'empêche que ce dossier-là, il existe. Si le gamin a 15-16 ans, il fait une connerie comme tous les 3/4 des gamins font, il a un dossier en psychiatrie. Et la première chose que les journalistes ils vous mettront dans un article... C'était un gamin qui avait été déjà en psychiatrie quand il était... la stigmatisation de... C'est vraiment important. Et moi, je trouve que c'est... Moi, je me suis fait sanctionner parce que je refusais, pour certains enfants où c'était manifestement pas... ça relevait pas de la psychiatrie, de faire un dossier. On peut le prendre en charge comme ça, en plus, comme on dit. Hein, on est là pour ça. Hein, voilà.
Donc pas de dossier, pas d'argent non plus, j'imagine.
Hein? Mais c'est ça, l'administration, elle veut un dossier. Pourquoi? Parce que après une journée qui arrive, c'est quand même dans le... Mais bon, nous, en tant que travailleurs sociaux, on n'est pas forcé d'avoir les mêmes réactions aussi. Hein? Bon, après, il faut savoir de temps en temps être illégal. L'illégalité, c'est pas forcément l'illégitimité. Hein. Faut pas confondre. Hein. Moi, tu me feras pas faire un truc que je ne veux pas faire. Hein. Ou alors, ça va être dur. Je sais pas.
Je vois bien notre hôpital est en processus d'accréditation. Alors l'hôpital de jour dont je m'occupe, c'est celui qui a le meilleur taux d'occupation. On est à 110% en permanence, etc. On bouge tous les trous des autres services. Les patients sont contents. On a une centaine de personnes en liste d'attente. Donc a priori, ça tourne plutôt bien. On s'entend bien dans l'équipe, etc. On a eu les plus mauvais points des accréditeurs. Pourquoi ? Parce que quand un nouveau travailleur arrive, on se met à côté de lui, devant l'ordinateur, on lui montre. On va le présenter aux patients, on a un groupe d'accueil des patients qui lui explique un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et il y a toute une transmission de bouche à oreille sur comment on travaille ici. Mais on n'a pas écrit ça en procédure. Et donc, pour avoir nos bons points, il fallait qu'on rédige toute notre manière de travailler. Parce que si quelqu'un qui n'avait jamais travaillé à l'hôpital le jour, venait travailler un jour à l'hôpital le jour, il faudrait bien qu'il puisse lire toutes les procédures. Ben non, je suis désolée, il n'aurait même pas le temps de les lire. Il faudrait une journée. c'est quand même un peu fou vers où ça va. Hein. Une transmission orale, c'est pas bon. Or, c'est ça qui fonctionne. C'est que ça qui fonctionne, hein. c'est de se parler. Enfin, dans mon boulot d'équipe mobile, je passe quand même beaucoup de temps au téléphone. Appeler le médecin traitant, quelqu'un qui connaît le patient, un copain du patient. Tu tricotes en parlant aux uns et aux autres. Quoi.
Oui, là, et on nous demande de passer notre temps soit à remplir des dossiers, soit à faire des schémas. Alors là, s'il y a plusieurs points, c'est la motricité, d'accord, donc 3, 4, ou 4, et hop, et après là, c'est pour...
Le risque suicidaire aussi, il faut coter le risque suicidaire.
C'est très parlant, les tableaux. Sauf que moi j'ai fait l'expérience dans une réunion, un gamin qui était hyper connu de l'hôpital psychiatrique, qui avait été codifié comme ça, et j'ai demandé à une autre personne, qui pratiquait les codifications, de me décrire. L'enfant, comme c'était un gamin qui est en psychiatrie, qui était hyper connu parce qu'il était débordant d'imagination notamment, et personne ne l'a reconnu. Alors, je dis, à quoi ça sert de nous faire passer des heures là-dessus alors que ça marche même pas sur un cas évident? Moi, je propose qu'on, s'il y a des questions, puisque on arrive dans le dernier quart d'heure, comme on dit, hein, c'est pas les 5 dernières minutes, c'est presque. Donc, si vous avez des questions, il faut y aller. Il faut en profiter. Voilà. Sur la psychiatrie, ça interroge quand même des fois. Mais pas de questions? Bon, voyons, c'était une présentation nickel, alors. voilà. Bon, moi, par exemple, je suis étonné que là, on est quand même à 10 minutes de l'hôpital psychiatrique. Et que, je ne sais pas, il y en a combien parmi vous là qui travaillent ou après montrer. On est quand même des fois payés.
Ou qui ont travaillé. Toi, tu as travaillé.
Voilà. On est au moins deux dans la salle, proportionnellement. voilà. Mais voilà, c'est des. En tout cas, en France, ce qui a été décrit dans ce bouquin-là, c'est quotidien. Hein. C'est-à-dire le fait de ne pas trouver le moyen d'entendre les enfants, je ne parle pas de les prendre en charge, même pas de les consulter, de les entendre. C'est le cas, j'allais dire, à 95% des situations. Hein. Donc c'est grave, hein, quand même.
Moi, ce que j'avais envie d'ajouter, c'est qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle catégorie d'enfants en souffrance, les enfants de parents qui ont des troubles psychiatriques. C'est vraiment un piège dans lequel on n'a pas eu envie de tomber du tout, Cathy et moi, de créer comme cette nouvelle catégorie à risque, à repérer, à accompagner. J'espère que le message qui passe, c'est bien que ils sont dans une situation qui est compliquée pour eux, qui prend beaucoup de temps, qui leur prend beaucoup d'énergie, dans laquelle ils sont fort seuls. Et comme je dis souvent aux enfants, je dis parce qu'on leur dit souvent, c'est pas à toi de t'occuper de ça, c'est pas à toi de faire ça. Moi, je dis souvent, c'est pas à toi de faire ça tout seul. Parce que l'enfant soit aidant, c'est bien, je veux dire, c'est ça qui fait notre humanité, c'est quand même d'être des personnes aidantes. Et on ne serait pas autant de soignants, on n'aurait pas travaillé dans les soins si on n'était pas fondamentalement aidant. Donc on ne va pas reprocher à l'enfant de vouloir faire ce que nous on fait. Ce qui ne va pas, c'est qu'il le fasse tout seul. Donc voilà, il ne s'agit pas de repérer des enfants à risque, mais d'accompagner des enfants dans des situations compliquées. Et ces situations compliquées, elles rejoignent d'autres situations. Je fais le lien avec l'interview précédente où on parlait du conflit Israël-Palestine. et où il y a les enfants qui grandissent dans des pays en guerre. Et j'entendais une psychologue libanaise qui a grandi au Liban dans la guerre, qui expliquait les non-dits des parents autour de la guerre. Donc comme si protéger les enfants de ce qui se passait, c'était ne pas leur parler. On retrouve les mêmes tabous sur des parents qui sont en prison. Ne pas parler aux enfants pour les protéger. Et donc il y a plein de situations qui rejoignent un peu celles des enfants dont je parle, qui sont des situations finalement d'enfants qui sont auprès de parents qui sont en souffrance, que ce soit parce que c'est des parents qui sont venus de loin, qui ont immigré, qui ont vécu des traumatismes épouvantables dans leur parcours de migration, que ce soit des parents qui ont eu des problèmes sociaux, qui ont été emprisonnés. Tout ça se rejoint. C'est comment finalement on peut être à côté d'eux, à côté des enfants, et sortir du silence en pensant que ne rien dire, c'est ça les protéger, quoi. C'est ça l'idée aussi. Et ça peut être le cas aussi d'enfants qui vivent des violences à la maison, parce que la violence conjugale, c'est pas le fait de personnes qui ont des problèmes psychiatriques ou qui sont malades psychiatriques. C'est le fait de beaucoup de personnes, comme vous et moi, mais qui ont des parcours différents. Donc la violence à la maison, c'est pas un problème psychiatrique. Et donc les non-dits qui sont mis aussi auprès des enfants qui vivent ça, hein, qui souvent n'osent pas en parler aussi, de peur d'être placés. Donc c'est ça, voilà, c'est tout ça qu'on parle.
Toujours pas de questions ?
Ah voilà.
La base de la vie, en fait, c'est la communication. Si tout le monde communiquait,
on va parler plus près.
Si tout le monde communiquait avec les enfants, avec les adultes, il y aurait beaucoup moins de problèmes et il y aurait moins de non-dits et moins de secrets qui pèsent sur des générations et des générations. En fait.
Et à ton avis, qu'est-ce qui empêche de communiquer avec eux ?
Maintenant, je communique énormément, j'apprends aussi aux parents à communiquer avec leurs enfants. Et c'était un effet de génération aussi, de politique, où il faut tout cacher, il ne faut rien dire. Même la psychiatrie, avant, on l'a diabolisée. Moi, je trouve qu'au contraire, s'il n'y a pas de psychiatrie, il n'y a pas de vie non plus, parce qu'au final, il y a un état mental qu'on néglige souvent. Et les maladies partent d'un trouble mental ou d'un choc ou d'autres choses. Et en prenant en compte ces
violences,
de violence, ça crée des chocs et au final, ça crée des maladies. Donc, il faut prendre l'émotionnel en question, en priorité, pour éviter les troubles, les maladies. Ça peut être toutes sortes de maladies, en fait. Tout part de l'émotion, du non-dit, que si on communique, l'enfant va apprendre à communiquer. Et l'enfant sait mieux que l'adulte ce qui se passe dans sa vie. Et voilà.
C'est ça, l'enfant, il est au fond spontanément communicant.
Oui,
c'est
exactement.
C'est nous qui freinons la communication.
Mais eux n'ont pas de barrière, en fait. Ils n'ont pas la même barrière que nous, adultes, au niveau du cerveau. Eux, ils voient quelque chose, ils le disent. Ils n'ont pas de filtre. C'est nous, non, tu ne peux pas dire ça devant mamie ou devant papy parce que ça va les choquer. Mais qui doit être choqué dans l'histoire ? L'enfant ne peut pouvoir parler. Parce que la base, c'est la communication. Il faut les laisser s'exprimer. Après, il faut les laisser s'exprimer dans le respect. Mais respecter l'enfant, c'est aussi respecter l'adulte et inversement. Des fois, on néglige aussi le respect au niveau de l'enfant. On dit, mais l'enfant, il faut qu'il se taise. Donc, on ne le respecte pas. Comment on veut que ce soit un adulte respecté si on ne le respecte déjà pas enfant? Il faut montrer l'exemple du respect.
Tu me rappelles une jeune fille qui avait dit, elle me racontait qu'elle avait dit à son institutrice, ma mère, elle est comme du beurre. Et en fait, elle parlait de sa maman qui était complètement, qui n'était pas en psychiatrie, mais qui était quand même bien psychotique. Et elle disait, je dis, qu'est-ce qu'elle a répondu, l'instit? Elle a dit, va faire tes maths. Et elle dit, cette jeune femme me disait, elle m'aurait dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça aurait tout changé.
Moi, mon fils, la dernière fois, m'a dit, mais je ne comprends pas les adultes, parce qu'au final, ils nous apprennent à vivre seuls, mais ils sont incapables, eux, de vivre seuls, et ils nous obligent, nous, à grandir et à vivre seuls.
Des témoignages comme ça, il y en a plein là-dedans. C'est vraiment un... C'est pour ça que c'est vraiment une grosse perte thérapeutique, là, pour le coup, de ne pas donner les moyens de les écouter, de les entendre. Hein, parce qu'écouter, ça ne suffit pas. Mais voilà, c'est encore du progrès à faire.
Et je trouve que ce qui est le plus touchant, c'est quand l'enfant se met à parler, parce qu'on voit toujours les enfants et les parents ensemble, et quand tu as un parent qui entend son enfant dire... Ah ben oui, ça fait 2 ans, je vois qu'elle est triste, elle ne me raconte plus d'histoires, elle a plus faim, elle ne fait plus de biscuits, des choses comme ça, et que le parent entend son enfant dire ce qu'il a vu, c'est extrêmement touchant. Et moi, j'ai vraiment vu des moments de bascule dans les... Parce qu'on a des parents qui sont parfois résistants aussi à aller mieux, etc. Et cette parole de l'enfant qui montre qu'il a vu le parent, ça fait basculer les parents du côté du soin. De vraiment, maintenant que j'ai entendu ça, c'est important que je prenne soin de moi. J'ai vraiment vu des moments comme ça où c'est quand même grâce au témoignage de l'enfant que les parents ont pu changer.
Non, mais moi je voulais rajouter, c'est que les enfants sont naturellement dans l'empathie de toute façon. Et c'est nous les adultes qui n'y sommes plus de toute façon. Ça me fait rigoler quand on remet les cours sur l'empathie pour travailler sur ça, mais alors qu'on n'est pas capable, nous, en tant qu'adultes, d'être dans cette exemplarité de toute façon.
C'est pas faux. C'est même tout à fait vrai pour dire.
C'est une belle conclusion.
Ah, et bien alors, on va donc terminer. De toute façon, il nous restait quelques minutes, pas 3 exactement, plus que 2. Et je vous rappelle quand même que le livre de Cathy Collier et Frédéric Van Leeuwen, c'est Grandir avec des parents en souffrance psychique. Alors moi, je le redis, hein, j'ai dit tout au début, c'est vraiment plus qu'abordable. C'est écrit d'une... Vous êtes bien démerdé, hein, pour... parce que c'est...
On est assez contente parce que des gens qui ne sont pas professionnels nous disent qu'ils le trouvent parfaitement compréhensible, mais les professionnels nous disent qu'il n'est pas réducteur. Ça, c'est quand même un beau compliment.
C'est vrai, personnellement, je pense que c'est une prouesse, hein, parce que les livres sur la psychiatrie, j'en ai lu, hein, pour la surapsychiatrie, sur l'antipsychiatrie, sur la psychanalyse. Alors là, c'est quand même le summum, je pense, hein, et pour ne pas comprendre. Et là, vraiment, moi, je trouve qu'on parle de l'essentiel avec des mots compréhensibles par tout le monde. Et effectivement, il n'y a rien qui est édulcoré, coloré, non, j'allais dire coloré, mais il y a de la couleur. Non, c'est vraiment...
C'est parce qu'il y a de la couleur que je n'en ai pas plusieurs exemplaires aujourd'hui, parce que l'éditeur m'a dit que comme il y avait de la couleur, c'était beaucoup plus long à réimprimer.
Il y a un prix à payer.
Mais on a voulu laisser la couleur parce qu'il y a des collages, il y a notamment des collages d'enfants qui sont réalisés et dont certains sont réalisés en famille, en thérapie familiale, des collages à plusieurs.
En plus, c'est toujours vachement coloré et tout. Hein,
Et donc, je pense que vous pourrez trouver un exemplaire à la bibliothèque sociale.
Oui, de l'Étoile Noire à Lens. Et il est déjà à côté. Bon, j'ai dû l'emprunter pour le lien. Voilà. Et ben écoute, moi, il ne me reste plus qu'à te... Enfin, on finira là. Pour te remercier de ton intervention et d'être venu. Parce qu'on s'est rencontrés il y a pas longtemps et discuté un peu.
Nous faisions du tourisme à Lens et puis nous sommes entrés absolument, enfin pas tout à fait par hasard à l'Étoile Noire. Il pleuvait, je suis partie avec une tonne de livres et puis Dominique nous a dit après qu'on ait papoté pendant un quart d'heure, il a dit attends je vais fermer 5 minutes et il nous a montré
La bibliothèque
qui nous a complètement émerveillés. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui.
On sait séduire, hein, nous, les vieux. voilà. Donc, ben, écoute, merci. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on va se revoir.
Merci, voilà. En tout cas. Merci des connaissances, en tout cas, de toutes les rencontres qu'une journée comme aujourd'hui permet. Parce que vraiment, les collectifs... contre la violence faite aux femmes, aussi le collectif LGBTQIA+, etc., que j'ai pu rencontrer de belles personnes, des belles rencontres qui auront des suites, j'espère.
Forcément. La révolution n'est pas faite, donc tout est à faire. À bientôt.
Merci.